Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. François Ansermet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, professeur honoraire à l'Université de Genève et à l'Université de Lausanne, ancien chef de service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents aux hôpitaux universitaires de Genève et directeur du département de psychiatrie de l'Université de Genève, membre du Comité consultatif national d'éthique entre 2013 et 2021. Alors ce livre, L'origine à venir, est-ce que vous pouvez déjà nous commenter ce titre, s'il vous plaît ?
Eh bien, L'origine à venir est au fond pris dans une dialectique, pourrait-on dire, entre des démarches nouvelles qui dessinent l'avenir de l'origine, c'est-à-dire les nouveaux modes de procréation, et en contrepoint de l'avenir de l'origine, qui peut-être aussi implique des nouveaux modes de société. On passera des nouveaux modes de procréation peut-être à un nouveau mode de société. Je donne une autre dimension qui est celle du devenir, parce que l'origine, au fond, il y a une clinique de l'origine, mais il y a une clinique du devenir. Et le message de ce livre, c'est de trouver l'articulation entre d'où l'on vient et ce que l'on devient. Et pour moi, c'est un point majeur. Ce que l'on devient implique une autre vision de l'origine. L'origine n'est pas un destin. L'origine, c'est aussi maintenant. Entre ce qui était et ce qui sera, il y a une discontinuité, il y a un espace, une respiration, où on peut devenir l'interprète d'un devenir qui n'est pas entièrement déterminé par l'origine. C'est un peu ça l'argument. Donc vraiment, c'est une manière de mettre en jeu clinique de l'origine et clinique du devenir. D'où l'on vient et ce que l'on devient. Mais le point de départ a été beaucoup autour des procréations médicalement assistées, des nouveaux modes de fabrication du vivant, si vous voulez, et au fond, qui peuvent parfois créer un vertige d'origine. On peut être capté, fasciné, excité, mais en même temps angoissé par le fait de pouvoir procréer de façon nouvelle. Ces nouveaux modes de procréation, est-ce que c'est des nouveaux modes d'origine ? Enfin, on peut dire qu'avec les nouveaux modes de procréation, on disjoint d'origine, de la filiation, on disjoint la sexualité de la procréation, on disjoint la procréation de la gestation. Au fond, tous ces registres qui pouvaient être vus dans une continuité sont révélés être en discontinuité. Oui, d'où des questions fondamentales propres aux humains. Okay. D'où viennent les enfants ? Qu'est-ce qu'un père ? Que veut une femme ? C'est des questions que Freud repérait à la base de toutes les névroses, mais on les retrouve exactement réalisées par les technologies contemporaines de la procréation.
François Ansermet, alors ce livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob et dont le titre est « L'origine à venir », plutôt qu'une origine déterminante, ce livre ouvre sur cette origine en devenir, à venir, où tout n'est pas joué, où chacun peut se faire l'auteur et l'acteur des surprises d'un devenir qui se joue en fonction de ses choix. À chacun son devenir au-delà de toute détermination. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de clinique, peut-être revenir sur ce terme. Vous avez parlé de vertige. Vertige, est-ce que c'est ça pourrait être dû à, aux limites du langage qui n'arrivent pas à nous donner l'outil pour exprimer toutes ces émotions, tous ces influx nerveux qui sont en nous. Le langage, est-ce un outil quelque part limité?
Mais tout à fait, vous le dites très très bien. C'est-à-dire, l'impression, c'est que le monde de la procréation change plus vite que notre capacité à le suivre. On peut voir ce changement comme une crise, mais peut-être c'est nous qui n'avons pas la capacité de construire une fiction sur ces nouveaux modes de procréation. Du coup, on s'affole. C'est un vertige de l'origine, un vertige biotechnologique, et qui est un vertige de l'origine, avec un vertige au fond de la prédiction, un vertige aussi de la différence. On peut procréer sans autre. On peut procréer comme les femmes seules, peut procréer les couples de femmes, etc. Donc on est tout dans un vertige. Vertige, pour moi, c'est un mot important, parce que vertige, ça veut dire que c'est quelque chose qui angoisse. Mais pourquoi ça angoisse? Aussi parce que ça attire, exactement comme le vertige à l'altitude. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un effet double dans le vertige, d'angoisse et d'attirance. Mais on peut être attiré par toutes ces nouvelles façons de procéder. Mais en même temps, je dirais, elles révèlent le rapport à l'origine. Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi maintenant et pas à un autre temps? Pourquoi ici et pas ailleurs? C'est des questions insolubles pour tout le monde. Hein, qu'est-ce qui s'est passé comme contingence pour qu'un enfant vienne au monde? Ça aurait pu être un autre homme, ça aurait pu être une autre femme, ça aurait pu être même un autre spermatozoïde, un autre ovule, un autre moi, un autre lieu. Tout cela est très marqué par la contingence, par le hasard, comme vous l'avez repris, par la surprise de sa venue au monde. Est-ce que quelqu'un a la capacité de saisir pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, pourquoi ici et pas ailleurs, toutes ces questions restent complètement vertigineuses pour chacun. Donc le vertige technologique renvoie à un autre vertige, qui est le vertige que chacun a par rapport à une question insaisissable, qui est celle de l'origine. Le fait qu'on ne puisse pas saisir l'origine, on ne puisse pas la penser, que ça soit un réel, qu'on ne peut pas traiter imaginairement et symboliquement, on pourrait dire « bon, ben c'est complexe ». En même temps, ça offre une liberté. C'est ça qui est au cœur de ce livre. C'est-à-dire que ça offre la liberté de remettre en jeu son origine entre deux temps du temps, de remettre en jeu l'origine au présent. On pourrait dire qu'il y a un T1 qui est antérieur, un T2 qui sera ultérieur, et entre les deux, il y a un T0, un temps zéro qui est un temps dont on peut jouer, hein, parce qu'au fond, le fait qu'on ne puisse pas saisir l'origine, en fait, plutôt que d'être un problème, est une chance. À partir de là, on peut remettre en jeu son origine au présent. On peut remettre en jeu son origine vers l'avenir. D'où mon titre, Origine à venir. L'origine est toujours à venir. On peut l'inventer, on peut la constituer différemment. On peut comme disait Walter Benjamin, une citation que j'ai mise en exergue dans le livre, dit « L'origine se prend dans le tourbillon du devenir ». Je trouve que c'est une façon merveilleuse de parler, c'est-à-dire qu'il y a un devenir qui est plus fort que l'origine. Encore faut-il que chacun, ou un par un, puisse oser l'imaginer, puisse oser disposer de son origine pour en faire autre chose.
L'origine, est-ce que ça n'est pas, à prime abord, une aliénation? Je viens au monde, à un moment, j'ai un nœud sur la réalité, on me noue, je ne suis pas en l'air, je suis née à un certain moment, avec certains parents, dans une certaine atmosphère, la date, y a-t-il des guerres, y a-t-il des... Donc je suis ancrée sur le temps présent lorsque je suis née. Cette origine, on me dit qu'on peut la décliner en devenir. J'espère, c'est-à-dire avec une éducation ou pas d'éducation, des rencontres, des traumatismes. Cette origine n'est pas comme une pustule immobile. On peut, une pustule ou une chance, parce que certains ont une origine extraordinaire, ils sont déjà, ils naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc l'origine, on peut en jouer par en jouer ou bien la modifier ou bien la décliner par rapport aux rencontres, par rapport à l'histoire. Et ce qui m'a aussi beaucoup beaucoup impressionnée, c'est ce néant qu'il y a avant l'origine, avant moi, je sais pas où j'étais, et puis après moi, je vais mourir, où est-ce que je vais aller. Donc il y a ce noir, c'est informel avant ma naissance, et c'est informel après ma mort, et ce sont les deux grands mystères qui sont les grandes pulsions de notre vie, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des psychanalystes.
Oui, exactement. C'est tout à fait converge, enfin finalement, comment faire que l'origine ne soit pas un piège de causalité, que ce ne soit pas une cause à tout faire. Bien sûr, il peut y avoir des origines favorables, mais elles peuvent être aussi aliénantes à une identité, on représente quelque chose, enfin on n'a presque pas de liberté de s'inventer. Pour moi, ce qui est important, c'est la possibilité de naître après coup. Naître après coup, c'est-à-dire de recréer certaines conditions en fonction d'un désir, en fonction d'une éthique, en fonction de choix, en fonction de solutions qu'on peut constituer, même par rapport à des origines très aliénantes, comme vous l'avez dit, très marquées par la difficulté. Donc, au fond, tout ça est possible paradoxalement parce qu'on n'arrive pas à penser l'origine. Vous voyez, c'est ça que j'ai un paradoxe au centre de ce livre. L'origine est aussi irreprésentable que la mort. Comme disait une petite fille que j'ai trouvée étonnante, elle demandait à sa maman une question, car la maman était enceinte, et cette question la tourmentait. La maman a cru que c'était d'où venait sa grossesse, n'est-ce pas ? Elle a expliqué, le papa, la maman, la proximité, le baiser, la petite fille l'interrompt en disant « mais c'est pas du tout ça que je veux savoir ». Et la mère, perplexe, lui demande « mais qu'est-ce que tu veux savoir ?» Et la petite fille lui dit « avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais ? » Est-ce qu'on peut dire mieux que ça comme question ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on était avant d'être conçu ? Où est-ce qu'on était avant d'être... Alors, évidemment, peut-être qu'on était... comme vous avez dit, c'est un noir, c'est quelque chose d'impensable. L'écrivain suisse Ramu disait « cette grande mort en arrière, n'est-ce pas ? Tu nais, mais au sein de la mort, hein, qui est une mort qu'on a oubliée, tandis qu'il y a une autre mort qui est toujours sous nos yeux, qui nous attend, et qui nous angoisse énormément. Pourquoi est-on plus angoissé par la mort qui est devant nous que par l'origine qu'on n'arrive pas à saisir ? Le fait que ça soit impossible, impensable, insaisissable, mon message, c'est que ça offre une liberté, que ça offre la possibilité de s'inventer, que ça offre la possibilité par rapport aux injustices de la naissance, parce qu'on peut dire qu'il y a des injustices de la naissance, eh bien... il y a une possibilité d'inventer une solution, de s'inventer, d'inventer un monde différent. Tout dépend de ce qu'on fera de notre origine et pas de comment on a été fait. C'est ça pour moi le message. Hein, c'est ce que l'enfant fera de comment on l'a fait, de ce qu'il fera aussi de ses déterminants. Hein, c'est une question, enfin finalement Sartre avait posé aussi cette interrogation, il y a ce qui nous détermine, et il y a ce qu'on fait de ce qui nous détermine. Et ça, c'est une autre version de l'origine, c'est une origine après coup. Rilke disait naître après coup, on poursuit sa vie à naître après coup. Encore faut-il le réaliser, d'où l'intérêt de faire un livre sur ce message. Vous voyez, comme psychanalyste, comme psychiatre d'enfants, on traite vraiment des histoires avec des déterminations très pesantes, des traumatismes, des migrations, des risques majeurs auxquels l'enfant est exposé même pendant sa grossesse, si on imagine les migrants. Eh bien, effectivement, est-ce qu'il va tomber dans le trou de l'origine et de l'impossible à supporter de l'origine, ou au contraire, est-ce qu'il va pouvoir se saisir du fait d'être en vie pour s'inventer, pour trouver une solution pour inventer un monde différent. Et au fond, pour moi, ça, c'est l'enjeu de la pratique analytique, la pratique psychanalytique. Naître après coup, construire un devenir et faire usage du temps zéro, qui est l'instant présent, faire usage du présent pour changer et pour inventer un avenir différent, pour ouvrir l'avenir. C'est pour ça que la clinique psychanalytique, comme je l'ai décrit dans ce livre, est aussi une clinique de l'imprévisible, de l'imprédictible, propre à chacun. Et au fond, que cet avenir, cette origine avenir, elle est possible si on ne se prend pas dans ce que vous avez très justement appelé les dimensions aliénantes de l'origine qui nous a marqué dans notre venue au monde, dans le fait de tomber dans le temps. On tombe dans le temps, à nous de nous saisir de cette possibilité, et que le fait de ne pas tout savoir sur l'origine, le trou dans le savoir, le trou dans les déterminations, le fait aussi de déterminer pour ne pas l'être complètement, ben c'est de ça dont on peut jouer pour construire une origine à venir.
François Hermé, alors là, je vais rebondir sur le mot « le temps ». Alors, l'origine, il y a l'origine passée, celle par laquelle j'ai fait irruption dans cet univers, et dont mon nombril est une signature. C'est la signature d'une origine antérieure. Je viens de quelque part. Je viens du ventre de ma mère. Donc, point de départ. Objectif, mon nombril, ça c'est sûr, j'ai une preuve, je suis venue d'une mère ou, comme vous le dites, je ne suis pas venue d'une maman, j'ai été un bébé éprouvette, ou là vous nous en parlerez. Donc il y a l'origine passée, point de départ, l'actuelle, puisque c'est une origine en devenir, et l'origine à venir, qu'est-ce que je vais devenir? Alors il y a le temps du passé, de la mémoire, le temps du présent, mais tellement fluctuant, tellement insaisissable, arachnéen, et il y a le temps à venir, qui j'espère que j'ai devant moi encore quelques années pour vivre. Alors ce temps, quel est pour vous le temps le plus difficile à appréhender par rapport à ce problème du langage et de ses limites?
Oui, ben je pense que le temps le plus difficile à appréhender, c'est le présent.
Ah oui.
Le temps fait symptôme dans la clinique parce que le présent est insaisissable comme tel. Et au fond, le présent, c'est tout ce qui compte, mais peut-être c'est ce qui est le plus complexe à saisir. C'est difficile d'en faire usage, et pourtant, tout va dépendre de l'usage qu'on va faire du temps présent, de l'instant. L'instant, le kairos, comme disent les Grecs, quoi. L'occasion favorable, la contingence, c'est ça la grande loi de la vie, c'est la contingence, encore faut-il se saisir de cette contingence, se saisir du présent, se saisir du hasard quand il surgit. Et est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de réaliser que l'origine, elle se joue d'abord au présent? Est-ce qu'on sait pouvoir, au fond, est-ce qu'on est capable d'en disposer? Est-ce qu'on peut disposer du présent? Est-ce qu'on peut faire avec le présent? On est toujours soit dans une logique du regret, du temps passé, j'aurais pu, j'aurais dû, ou bien une angoisse par rapport à l'avenir, où on remet à plus tard ce qui pourrait être, alors que tout va dépendre de ce qui va être mis en jeu au présent. Et dans la cure analytique, on utilise beaucoup le temps, quoi. Il y a l'instant de voir, disait Lacan, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Et au fond, il faut à un moment un acte fondateur, un acte créateur. Les artistes le font. Les artistes, ils créent au présent, bien sûr. Il y a tout, c'est comme l'improvisation musicale, si vous voulez. Il y a des notes, il y a des façons de faire par rapport à l'écoute possible des gens. Mais au fond, entre deux notes, il y a une infinité de possibilités. Comment est-ce qu'on procède avec l'aberrance de l'instant? C'est un peu la question que vous posez et qui est au centre de ce de cette idée de l'origine à venir. L'origine à venir, que je ne dis pas comme en deux mots, et pas ce, c'est peut-être là que va se jouer effectivement l'avenir en un mot, mais à partir d'un maniement du présent. Et tel est l'enjeu. Alors peut-être que c'est l'instant, c'est cette part dont on, au fond, on ne se saisit pas, quoi. C'est certains, Walpole a parlé au fond de la sérendipité, la sérendipité, comme il disait, sérendipité, c'est-à-dire le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherche. Et au fond, dans le présent, on peut trouver autre chose que ce que l'on cherche. Mais comme le disait Walpole, encore faut-il avoir la sagacité de s'en servir. Et probablement, c'est ce qui est le plus libérateur, mais peut-être le plus inaccessible. L'usage du présent.
Vous avez parlé dans votre livre du WITZ, c'est-à-dire W-I-T-Z. C'est quoi? Et là, ça fait rêver. Vous dites le WITZ, vous nous direz ce que c'est, vise la liberté.
Oui, alors ça, c'est le WITZ, c'est le mot d'esprit. On pourrait dire que c'est un surgissement de l'inconscient, le WITZ. Ouais, ça fait partie d'une certaine relation à l'inconscient. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, c'est l'insu, hein, ce qui se joue à notre insu, unbewusst. L'inconscient, pour Freud, était marqué par ce qu'il appelait le processus primaire. Qu'est-ce que c'est que le processus primaire? C'est l'absence de temporalité, la temporalité. L'absence de contradiction, l'absence de négation. Et au fond, dans le surgissement de l'inconscient, dans les surprises de l'inconscient, dans l'usage de l'inconscient, il y a cette dimension d'accès très paradoxal à une atemporalité qui est aussi toujours en jeu dans le présent. Alors c'est comme ça que j'ai parlé du vide, mais on pourrait parler du rêve. On peut être soi-même et quelqu'un d'autre, on peut être ici et ailleurs. Il y a une grande liberté, finalement, que permet l'inconscient. L'inconscient est aussi un processus à l'œuvre dans la créativité. Hein, inventer une forme nouvelle, il y a quelque chose du fait qu'on trouve autre chose que ce que l'on cherche. Quoi. Tout à coup, c'est quelque chose qui se présente. À chacun la responsabilité de s'en saisir. Et ce moment de saisissement, eh bien, effectivement, est peut-être marqué par cette atemporalité. Lacan, il distinguait deux inconscients, je trouve très parlant la façon dont il est présent, que j'essaie de résumer rapidement, en disant il y a l'inconscient automaton, c'est déjà là, c'est pourquoi pas des traces musiques inscrites, qui ont une pente à la répétition, non, c'est l'inconscient automaton qui est à la base du fait que les choses vont être déterminées sur une scène inconsciente, et puis l'inconscient tuqué, l'inconscient surprise, tuqué au sens d'Aristote, l'inconscient surprise, contingence, l'inconscient qui offre une discontinuité par rapport à ce qui était, et au fond, qui est du non-réalisé. Il y a une grande part dans le destin de chacun de choses qui sont là, mais qui ne sont pas réalisées, et qu'on peut réaliser à condition de s'y risquer, quoi, peut-être. C'est ça que nous enseignent les artistes, que nous enseigne le créateur, mais chacun est un artiste de sa propre vie. Sa propre vie est aussi une invention, une fabrication, une, une création. Et à partir de là, Lacan avait un paradoxe que j'adore. Il dit « on ne répète qu'une seule fois, on ne peut répéter qu'une seule fois ». Je trouve que c'est magnifique de condenser l'idée de la répétition. C'est-à-dire on n'en sort pas de répéter la même chose et la répétition du même et la production du même. Mais en même temps, dans la production du même, il y a la potentialité de la production du différent. On peut vraiment échapper à la répétition par la répétition elle-même. Et au fond, ce paradoxe de la répétition, on ne peut répéter qu'une seule fois, et est aussi propre à ce processus inconscient qui ignore le temps, qui ignore qui est adimensionnel, qui ignore la contradiction, qui ignore la négation, qui permet d'échapper à certaines conditions aliénantes, propres à l'histoire, propres à la vie de chacun, à ses traumatismes aussi, hein, puisque en fait, ça va aussi pour le traumatisme. Le traumatisme surgit comme une effraction, c'est sidère, ça pétrifie. Ensuite, il y a le temps de la répétition, de la construction de son histoire avec le risque de faire du traumatisme un piège de causalité, d'en faire une identité. Et puis, il y a un troisième temps qui est la sortie du traumatisme. La sortie du traumatisme peut se faire d'un coup, par surprise. C'est un acte, hein, plutôt qu'une compréhension. Et c'est un acte dont on peut user comme créateur de sa propre vie.
Alors, si j'ai bien compris, on a un traumatisme, puisqu'on parle maintenant de « il y a une origine, il y a un devenir », donc on ne va pas rester toujours sur le même point de cette origine, on a des rencontres, on a des traumatismes, on a des joies, on a des lectures, donc on devient quelque chose, c'est un devenir à venir, qui va venir. Alors, est-ce que parfois, certains restent dans l'obsession? Vous avez parlé de répétition, il y a cette origine, et puis après, il y a un comportement qui se referme comme un piège. Ce comportement devient obsessionnel. Alors, quelle lueur peut-on avoir pour sortir de ce piège, de l'obsession, vers une libération, vers un vécu différent, donc un devenir?
Oui, peut-être faut-il une rencontre pour cela. C'est ça l'enjeu de la psychanalyse. C'est une clinique sous transfert, dans une relation, à travers une rencontre. Peut-être il faut quelqu'un qui dise oui, c'est possible. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est injecté dans le fait du retour au même? Il y a une dimension pulsion de mort. Hein, c'est une pulsion de mort, c'est peut-être le côté mis en jeu par Freud de quelque chose qui, dans la vie, préfère la mort. Quoi. Et que certains ont des comportements, un vécu d'eux-mêmes, un vécu de leur existence, qui est marqué par cette pulsion de mort, qui est silencieuse, qui est au cœur de chacun. Puis qui prend parfois des formes bruyantes, hein, quand se tourne vers l'extérieur, ben c'est la haine, c'est la brutalité, c'est la guerre, c'est la destructivité. Donc tout ça, c'est ces dimensions pulsion de mort qu'on peut mettre en balance avec la pulsion de vie. La pulsion de vie qui fait que à un certain moment, il est possible de faire usage de ce qui nous habite d'une façon différente. Donc on est dans cette dialectique entre pulsion de vie et pulsion de mort. On pourrait même dire qu'il y a une destructivité de mort, jusqu'au suicide. Mais comme on enseigne la clinique du suicide, et pour les jeunes qui ont les tentatives de suicide, c'est quand même la première cause de mortalité des 15-25 ans. Il y a un paradoxe du suicide, que celui qui va faire un acte suicidaire veut chercher une issue. En fait, le paradoxe du suicide, c'est que malheureusement, dans certains grands nombres de situations, le suicide est un passage à l'acte qui visait la vie plutôt que la mort. Donc pour moi, il y a toujours cette balance entre destructivité de mort et destructivité de vie. C'est pour ça que la question de l'art, de l'artiste, est très intéressante. Si vous voyez un artiste à l'œuvre, il détruit autant qu'il construit. et il construit à partir d'une certaine destruction. Donc on peut faire un usage de vie d'une certaine destructivité. Il faut changer, il y a des révolutions scientifiques, il y a des changements de paradigme, ça passe aussi par la destruction de ce qui était, et que c'est là aussi où se joue une origine à venir.
Alors, c'est tout à fait passionnant. Je reviens juste sur l'idée de l'artiste qui détruit, fait une peinture, efface, reprend les reliquats, toutes les traces qui restent. Je travaille aussi beaucoup comme ça, mais pas que comme ça. Et donc, il y a des traces qui me donnent de nouvelles pistes, de nouveaux soleils à venir. Donc, mais ce n'est que sur le papier, ce n'est pas sur ma vie. La destruction positive pour l'artiste a moins, beaucoup moins de conséquences que celui qui fait son travail artistique sur son propre mental, sur son propre, j'oserais dire, corps. Donc l'artiste, c'est un peu sans risque.
Oui, ben c'est sur sa propre vie, c'est l'enjeu, c'est risqué, puisqu'on ne sait pas, c'est une clinique de l'imprévisible. On ne sait pas ce qui va s'en suivre, mais en fait, vous avez raison de dire que ce que je dis de l'artiste par rapport à sa création, qui est dans le cadre de sa création, pourrait être dit pour chaque sujet de sa vie. Hein, parce que dans la vie, il y a des forces répétitives, il y a des pulsions de mort, il y a un fantasme qui donne à la réalité son cadre. On regarde le monde par la fenêtre de son fantasme, que là, il y a des forces répétitives qui limitent, qui empêchent, et que peut-être l'enjeu, c'est de pouvoir traverser ces dimensions répétitives, traverser ces scénarios figés pour laisser la place à son désir, à sa créativité, à sa vie.
Alors, vous avez parlé de la rencontre. Mettre en scène ce nouveau-né qui n'est pas fini, qui ne marche pas, qu'il faut nourrir, qu'il faut nettoyer. Donc, ce nourrisson qui est prématuré de façon biologique a besoin automatiquement de l'autre pour continuer à vivre. Et là, c'est comme ça qu'il y a l'autre qui fait irruption dans notre univers et l'autre, la rencontre, la chance.
Absolument. Vraiment, c'est l'enjeu majeur. L'humain est le plus inachevé des vivants, le plus néothénique. Il vient au monde dans l'inachèvement et l'autre lui est nécessaire. Et c'est effectivement l'action spécifique de l'autre, Freud prenait ce terme, action spécifique de l'autre humain, du Nebenmensch, vraiment de l'autre humain qui est là, qui va lui permettre d'accéder au monde de l'autre avec un grand A, le monde de l'autre qui est le monde du langage aussi bien. On tombe dans le temps, on tombe dans le langage, mm-hmm. Il y a presque un traumatisme, si un traumatisme de la naissance, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire le traumatisme lié à l'inachèvement, avec une potentielle détresse, Hilflosigkeit, disait Freud, dans l'esquisse pour une psychologie scientifique, c'est-à-dire d'être sans recours au début de la vie, si ce n'est la rencontre avec l'autre. Au commencement est la rencontre avec l'autre, au commencement est la réponse de l'autre, à partir de laquelle on advient. Alors, avec le risque de se prendre de manière aliénante dans la réponse de l'autre, en faire une identité figée, une identité constituante de rivalité avec d'autres identités. D'où vient, par rapport au côté totalement arbitraire de l'origine, le fait que des origines s'affrontent de façon aussi guerrière à travers la planète, alors que personne n'a vraiment, n'y peut vraiment rien dans cette affaire. Hein, c'est-à-dire que c'est les ratés de la rencontre. Alors, il y a un risque aliénant de la rencontre, mais la rencontre, elle est salvatrice. Hein, c'est un risque salvateur. Et au fond, on pourrait se dire que ce point-là, il se rejoue tout au long de la vie. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'autre est nécessaire, il est salvateur. fait entrer dans le monde du langage qui nous préexiste, de la culture, le monde de l'histoire, des attentes, des possibles, mais en même temps, il peut être figeant, quoi. Est-ce qu'il va être un autre qui va permettre un mouvement ou
c'est ça,
un autre
c'est ça.
Qui fige? Telle est la question, et tel est peut-être aussi
le risque.
L'enjeu de la clinique psychanalytique, oui.
Alors, juste...
Quel est le risque, oui.
Alors François Ansermé, dans ce livre absolument passionnant, dont le titre est « L'origine à venir », qui paraît aux éditions d'Il Jacob, il y a tout un pan que j'aurais aimé aborder déjà avec vous, c'est vous êtes spécialiste des sujets de procréation médicalement assistée. Est-ce que ces enfants qui sont nés de cette méthode de procréation médicalement assistée, est-ce qu'ils développent des détresses de vie, des pathologies mentales? Si on dit à l'enfant, si on lui dit franchement, toi tu n'es pas venu de mon ventre, on t'a travaillé dans un labo, c'est tellement presque scandaleux par rapport à la nature, à la morale ambiante. Est-ce que ces enfants sont plus malheureux que les autres? Vous avez rencontré donc certainement beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire du devenir de ces petits qui ont été procréés médicalement?
Vous savez, il y a eu une grande campagne, puisque je suis de Suisse, en Suisse, dans les années 2000, sur les questions des procréations médicalement assistées, des lois sur les procréations médicalement assistées. Et une journaliste avait fait dans le journal Le Temps un entretien avec un enfant. Les parents étaient d'accord qu'elle lui parle à cet enfant. Et puis elle lui a demandé ce qu'il pensait de tout ça, d'avoir été créé de façon médicalement assistée. Et lui a fait une réponse merveilleuse. Il a dit « content d'être là ».
D'accord.
Je crois que ça dit bien les choses. C'est-à-dire que l'enfant, il ne faut pas confondre les choses. L'origine, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux que le mode de procréation. Qu'on ne peut pas ramener un enfant à son mode de procréation. Mm-hmm. L'enjeu, c'est aussi le désir de ceux qui ont voulu lui donner vie, le faire entrer dans l'existence. Et par exemple, le débat actuel sur la levée de l'anonymat du donneur de sperme, qui est introduit en France à travers la loi de bioéthique récemment mise en place, on dit accès à l'origine. Alors, accès à l'origine, ce serait l'accès au donneur de sperme, par exemple, ou bien à la donneuse d'ovocytes. Mais l'origine, c'est le désir de ceux qui ont voulu offrir la vie, il s'agit de la création de la vie, c'est la fabrication des enfants, c'est la création de la vie. Il n'y a rien de catastrophique dans cette affaire. Il y a des procréations médicalement assistées, il y a des procréations amoureusement assistées, il y a des procréations sexuellement assistées, il y a des procréations divinement assistées. La Bible est pleine de
histoires
de stériles et de procréation, enfin dans tout l'Ancien Testament, mais aussi le côté du Nouveau Testament, enfin finalement l'Annonciation, hein, le Verbe qui se fait chair. Enfin, c'est une histoire assez extraordinaire. Donc finalement, dans ce texte, ces textes sacrés de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais on pourrait penser que si j'étais savant dans toutes les religions, on trouverait énormément de fantaisie et de construction sur la question du surgissement de la vie. Vous voyez, c'est ça. Mm-hmm. Et du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des mythes, des religions, des contes, il y a beaucoup plus de choses que ce qui est réalisé dans les laboratoires. Rien de catastrophique dans ces laboratoires, si vous voulez. Hein, c'est, si on imagine le mystère de l'incarnation, dans Dante, dans la Divine Comédie, chant 31, dit « Ô Vierge Mère, fille de ton Fils ». Ça, franchement, dans un laboratoire, vous ne réalisez pas. La Bible de l'Ancien Testament, c'est plein d'infertiles. C'est fait partie, peut-être qu'il y a quelque chose d'une conception sacrée, quoi, du mystère. qui est aussi relayé la mythologie grecque avec Dionysos né deux fois du ventre de Sémélé et de la cuisse de Jupiter, Athéna qui sort toute armée d'un coup de hache dans la tête de Zeus. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a réussi des telles technologies.
Oui,
donc
mais...
l'imagination des humains sur le mystère de l'origine, elle est plus vaste que la réalisation technologique et des scientifiques et des technologies contemporaines.
François Enzermet, alors à mon très humble avis, on ne peut pas comparer tout ce qu'on a lu dans la Bible, dans les mythologies. C'est ce sont des mots, ce sont des traces sur le papier, ce sont des écritures. On y croit,
absolument,
on n'y croit pas. Mais celui, l'enfant qui est manipulé, pas manipulé au niveau prosaïque, mais qui est fait avec une éprouvette, dans un processus scientifique, ça c'est concret, ça c'est physique, ça c'est... Je ne veux pas dire dangereux, puisque les enfants naissent et puis que la méthode semble maîtrisée. Mais moi, j'aurais été un bébé éprouvette, je me serais vraiment posé des milliards de questions en me sentant comme un alien, pas comme les autres. La nature, il y a un décalage avec la nature telle qu'elle se conçoit partout, telle qu'elle se pratique, qui est souvent en parallèle avec la morale, la nature. Et là, le bébé éprouvette, il y a un bond dans la réalité, dans la manipulation.
Oui, je suis d'accord, mais en même temps, on peut se dire qu'une conception par la voie commune, elle est tout autant mystérieuse, vous voyez, elle est tout autant insaisissable. Pour moi, je pense que tout tient dans le fait qu'il y a là, on pourrait dire, il y a le réel, l'imaginaire et le symbolique, je pense, les repères psychanalytiques. Et qu'au fond, c'est au nuage entre ces trois dimensions que se situe la question de l'origine. Il y a un abord qui implique quelque chose qu'on n'arrive pas à penser, peut-être encore plus important avec ce que vous donnez, bébé technologique. Hein. Il y a aussi du symbolique, qu'est-ce qu'on vient faire ici, les choses inscrites, les attentes. Il y a les dimensions imaginaires qui sont aussi présentes. Et font ces trois dimensions sont nouées et inséparables. Alors bon, dans certaines situations, la dimension technologique a pris une place. Il s'agit d'en faire usage et de savoir comment en parler. Hein, c'est-à-dire, au fond, j'entends bien votre attention sur la question du langage, des traces inscrites, et puis en même temps de la nature. Mais si vous voulez, la question, on constate à travers les technologies de la procréation la complexité du lien entre le langage et le vivant. Tout du vivant ne peut pas être pris sous le langage. Il y a une part qui échappe. Peut-être qu'avec les technologies de la procréation, la part qui échappe au langage est d'autant plus évidente. Autrement, on est dans une fiction de la nature qui nous permet de penser que tout ça est en continuité. Comme je l'ai dit précédemment, origine, sexualité, procréation, gestation, naissance, filiation, on imagine un continuum. Mais en fait, c'est des mondes imaginaires et symboliques discontinus. Le monde subjectif de la sexualité, ce n'est pas le même que celui de la procréation, ce n'est pas le même que celui de la gestation, ce n'est pas le même que celui de la naissance, ce n'est pas le même que celui de la filiation. Mais au fond, on s'aperçoit que tout ça, c'est un traitement imaginaire et symbolique d'un réel qui nous échappe. Et c'est pour ça que je ne serai pas plus catastrophiste sur les technologies de la procréation que sur toute autre procréation. En même temps, arrive au comité d'éthique dont j'ai fait partie pendant 8 ans au CCME à Paris, arrivent les questions impossibles issues des laboratoires, si vous voulez. Les vertiges technologiques, c'est pour ça que j'ai oublié le comité d'éthique, c'est un observatoire de la perplexité contemporaine. Il y a quelque chose, et peut-être aussi un observatoire de l'angoisse contemporaine. Mm-hmm. Par rapport à ces questions qui sont le réel qui nous dépasse et qui dépasse les capacités symboliques et imaginaires de traitement de ce réel, eh bien, il y a deux réactions possibles. D'un côté, les biocatastrophistes qui disent on perd le fil, on perd la logique, on perd l'enchaînement naturel qui était depuis toujours présent. Et puis, il y a les technoprophètes qui disent on va échapper aux maladies, on va échapper aux déterminants funestes, etc. Je crois que chacun a une part de lui-même un peu biocatastrophiste et un peu technoprophétique. Mmh. Et qu'au fond, il s'agit plutôt de se demander, c'était ma position au comité d'éthique, dans ses avis sur les procréations médicalement assistées, différents avis sur ces problématiques-là, c'était de dire, au fond, que dans ces questions-là, on doit plutôt se demander d'où vient la difficulté à penser ces nouvelles situations. Vous voyez ? C'est-à-dire, plutôt que de dire ceci est bien, ceci n'est pas bien, de dire quelle est la difficulté de se mettre d'accord. D'où vient la difficulté de se mettre d'accord ? Et que peut-être ça c'est une autre voie et que si on veut donner quelque chose aux politiques, aux commissions qui décident les limites des choses, eh bien il faut peut-être livrer cette difficulté de la raison de la difficulté de penser ces questions. Et c'est à ça que je pense qu'il faut se consacrer. Hein, pourquoi c'est difficile à penser ? Un point de butée. Lacan parlait butée logique. J'aime beaucoup cette expression, butée logique. Vraiment, c'est ce que vous avez introduit dès le début de cet entretien. Butée logique, c'est butée du logos. Hein, le logos, il est petit, il arrive un peu à traiter certaines choses. Mais plein de choses le dépassent. Et quand on est dans les vertiges technologiques, on s'aperçoit des limites du langage, la fragilité du langage. Le langage est sur le réel comme, je ne sais pas, un étang gelé, quoi. Il y a une couche de glace, mais si on marche, elle peut se fendre et que ça risque de s'effondrer. Parfois, j'ai l'impression que si le langage apparaît encombrant, difficile, on entend tout et le contraire, c'est beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. Et que le rapport aux avancées technologiques nous montre peut-être l'importance des faits de langage, l'importance de la fragilité du langage.
Alors peut-être qu'aussi le langage, probablement, vous avez dû certainement le remarquer, que le langage évolue et qu'il est infusé par toutes les nouvelles découvertes, le monde qui évolue. Il y a des mots nouveaux qui naissent, il y a des relations entre les mots, il y a des liaisons comme en musique, les mots et leur entourage donnent des phrases différentes. Donc tout ceci est extrêmement intéressant et vous parlez de tout ceci dans votre livre « L'origine à venir », François Ansermet, vous l'avez publié aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment et au plaisir pour un autre entretien avec vous.
Merci à vous, c'est une question. On se rencontre dans ces questions, effectivement.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. Thank you.